c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous les amis des petites histoires de la grande aviation. Plus le temps passe, plus ce raid Paris-Saïgon reste pour André Japy une obsession et l'objectif unique. Le challenge est toujours ouvert. La date du 1er février 1936 reste celle qu'il faut respecter. Toute l'année 1935 ne sera pas de trop pour se préparer. Avec son avion, il multiplie les entraînements locaux, puis projette un certain nombre de raids et à un rythme plus que soutenu. Après une année 1933 très chargée en kilomètres et en heures de vol, et une année 1934 avec l'échec sur Saïgon avec le Gypsy Moss, même si le challenge n'avait pas porté chance aux deux autres candidats non plus, il doit tirer les leçons de tout ce travail et prendre des décisions qui s'imposent pour tirer le meilleur profit de ses expériences. Pour commencer, il faut un avion plus moderne et mieux adapté. Caudron vient de sortir son modèle C-800, c'est le Caudron Aiglon, et il ne demande qu'à voler. Japy fait donc l'acquisition d'un Aiglon immatriculé Fox ANVB, Victor Bravo. Si je vous donne ces précisions sur les immatriculations, ça n'est pas superflu car c'est la meilleure façon d'identifier un avion. Je reprendrai souvent cette formule de précision. Le F signifie immatriculation en France et, après un tiré, les quatre lettres sont une déclinaison alphabétique. La première lettre, le A, marquant une classification d'avion de série de tourisme. En même temps, ce sera et c'est toujours la façon dont les pilotes s'identifient dans la circulation aérienne vis-à-vis des autres avions et bien sûr des contrôleurs aériens. Et, pour l'histoire et les historiens, il est plus facile d'identifier une photo ainsi et d'aider à la situer dans le temps et éventuellement dans l'environnement. Parfois, bien sûr, les pilotes baptiseront leur avion de façon plus personnelle et une décoration spécifique facilitera l'identification visuelle. Mais c'est à leur décision personnelle alors que l'immatriculation est délivrée par l'autorité compétente. Elle est bien sûr unique. En circulation et en radio, ces lettres s'énoncent selon ce que l'on peut appeler parfois l'alphabet radio, bien connu ou facile à trouver, codifié pour être entendu par les utilisateurs de toutes les langues. C'est A, Alpha, B, Bravo, C, Charlie, etc. Dans la pratique, après s'être présenté au début d'un échange par son indicatif complet, le pilote, dans cet échange, n'indique généralement plus que les deux dernières lettres. Je ferme ici la parenthèse, mais c'est une question qu'on me pose souvent. 1935 sera donc l'année des raids de préparation avant le départ en fin d'année. Au programme, navigation, endurance du pilote et celle du matériel. Pour la navigation, sa formation PSV, c'est-à-dire pilotage en vol sans visibilité, va être mise à l'épreuve. Concernant l'endurance, voyez un peu. Au mois d'août, un Paris-Oslo aller-retour dans la journée. La presse, qui suit cela de près, titrera « Il va déjeuner à Oslo et revient à Paris pour le dîner ». C'est 2280 km en 15h10, après une escale de 2 heures. En septembre, ce sera Paris-Oran et retour à Paris, même cadence. 3050 km en 16h25. 3 semaines plus tard, Paris-Tunis et retour, toujours dans la même journée, encore un peu plus long, 3400 km, en 17h05. Ces trois courses, avec la résistance que cela suppose, seront faites à une vitesse moyenne à peine inférieure à 200 km/h. Donc, pas de souci non plus pour l'endurance de la machine. À la fin de l'année, André Japy se sent prêt. Et le 12 décembre 1935, l'Aiglon Victor Bravo est positionné à Orly pour le départ. Bien sûr, un itinéraire très précis est arrêté, mais cette précision théorique se heurte inévitablement à plusieurs difficultés, notamment météorologiques, tempêtes et brouillards, et tout ce que l'on peut qualifier d'imprévu prévisible. Première étape, Karachi. Et après une dernière escale en territoire français à Marseille, c'est Alexandrie, Damas, Jacques, c'est un petit port sur le golfe d'Oman. quelques heures de repos à Karachi. Il semble bien qu'il se soit posé à Jodhpur, en route pour Calcutta, après avoir cherché le passage pour franchir les hautes montagnes de Birmanie. Japy est épuisé. Le manque de sommeil est terrible. Il avoue s'être assoupi à plusieurs reprises et avoir rouvert les yeux à temps, réveillé par le vent le long de son fuselage et l'emballement du moteur de l'avion en piqué. Après le repos à Calcutta, il décolle en pleine nuit en direction de Saïgon. Lorsqu'il apercevra bien plus tard, sous son avion, les lueurs des méandres du Mékong, il sait qu'il n'est plus très loin de son but. À 3h23 GMT, il se pose sur le terrain non balisé à son grand étonnement. Il a mis 3 jours 15 heures pour faire les 10 150 km, battant ainsi le record des deux Marcel, Lalouette et Goulette, qui avaient mis plus de 5 jours pour accomplir cette distance 5 ans plus tôt avec leur Farman 190. Lalouette, encore un pilote méconnu, on peut dire oublié. Pourtant, il a accumulé des exploits lors de raids et s'est illustré en ramenant dans son pays Carol II, roi de Roumanie, en exil à Munich, pour retrouver son trône. Revenons à l'arrivée à Saïgon et l'anecdote expliquant l'absence de balisage du terrain. C'est en fait qu'il n'y avait aucun personnel sur le terrain, à part un employé de la douane qui a pu prévenir les autorités. Lorsque les officiels arrivent, ils avouent qu'ils n'attendaient pas l'aviateur aussitôt. En France, la nouvelle finit par arriver et bientôt le journal L'Intransigeant fait un gros titre en première page. André Japy, le Lindbergh français. La publicité faite à ce prestigieux record donne des idées à d'autres compétiteurs attirés par le prestige de ce challenge, sans oublier les récompenses financières attachées à ces conquêtes. Je vous ai laissé entendre, dans mon préambule il y a plusieurs semaines, qu'un événement n'est jamais isolé à l'intérieur de sa période. Les événements se font concurrence, mais aussi se complètent, s'éclairent mutuellement, et les personnages et leurs atouts matériels se croisent en permanence ou se chargent de l'actualité. Un autre candidat au challenge se révèle et brigue The Record. Il s'agit, tout simplement, d'Antoine de Saint-Exupéry. À cette époque, Saint-Ex, ce diminutif est maintenant consacré, Saint-Ex a intégré les équipes d'Air France où il est attaché dans les services de presse. Constamment à court de finances, mais toujours socialement en vue, il peut trouver des soutiens financiers, du crédit et des appuis, tout en augmentant ses engagements. Mais le challenge est richement doté et il devrait pouvoir ainsi rembourser son crédit. Il peut compter pour ce challenge sur un magnifique appareil bien conçu, confortable voire luxueux, mais également aménageable et préparable pour des raids au long cours. Cet avion est un Caudron et très précisément un Simoon dont il a fait l'acquisition récemment. Tiens, nous y voilà dans ce fameux télescopage des personnages et des événements que je vous avais annoncé comme trame de ce récit. Je continue à situer les appareils sur leur immatriculation. Celui-ci est F. Henry, A-N-R-Y, soit Romeo Yankee. Saint-Ex n'a pas perdu de temps puisque l'exploit de Japy est connu à Paris dès le 17 décembre. Il décolle avec André Prévost, son mécanicien, dès le lever du jour du 29 décembre. On est toujours en 1935. Le record à battre est de 98 heures 52 minutes. C'est un petit peu plus que les 3 jours 15 heures annoncés à l'arrivée de Japy à Saïgon, traduit en 86 heures 53 minutes, car des corrections ont été appliquées, notamment car il y a litige entre le Bourget, base de l'avion, Orly, départ officiel et l'escale de Marseille. Mais il n'y a pas de discussion, la victoire est suffisamment large. Autant Japy, avec son bagage scientifique, sa prudence et sa méticuleuse préparation, avait mis le maximum d'atouts dans ce qui restait malgré tout une aventure périlleuse, autant la tentative de Saint-Ex comporte un lot important de précipitation, voire d'improvisation, et de restriction avec des décisions discutables, mais avec le but de ne pas alourdir l'avion au profit de l'emport d'essence et d'huile, donc d'autonomie. C'est ainsi qu'il renonce à une radio. Après le décollage matinal, on est toujours avec Saint-Ex, l'avion survole Lyon, fait escale à Marseille, puis à Tunis et Benghazi. En pleine nuit suivante, voulant passer au-dessous d'une couche de nuages non accueillante, le pilote descend trop bas et percute une dune. Il est dans le désert de Libye, au milieu de rien. Les deux hommes, dans ce désert inhospitalier, décident de marcher. Ils sont vite à court d'eau dans une chaleur torride, ils sont épuisés. Au bout de 3 jours, ils sont retrouvés par une caravane de Bédouins. À Paris, on était évidemment sans nouvelles et l'équipage est considéré disparu, selon le terme classique employé, tant que l'on n'a pas de traces ou de preuves. Mais pour beaucoup, 3 jours, on peut penser perdu. La notoriété de Saint-Ex à cette époque est telle que l'émotion est immense. Alors, après que la récupération des deux hommes ait été officialisée, leur retour à Paris est salué par une énorme ovation. Il est probable qu'ils n'auraient pas eu mieux s'ils avaient réussi. Et André Japy n'a pas, pour sa part, obtenu pareil accueil, lui qui a établi ce record dès lors non battu. Japy est rentré en France par un vol d'Air France. Il descend d'un superbe Potez 62 d'Air France et est accueilli chaleureusement comme il se doit à son arrivée. Il n'était pas dans son habitude d'être ainsi honoré par le public et ses performances restaient jusque-là dans le cercle restreint de l'environnement du constructeur et des initiés. L'Aiglon a été convoyé en vol vers la France. Un accident à l'atterrissage à l'escale de Bagdad a compliqué le retour, mais notre pilote ne voulait pas perdre de temps et n'avait qu'une idée en tête, faire le point des nouveautés et des projets de nouveaux avions pour envisager de nouveaux raids, des nouveaux challenges, des nouveaux records. Et toujours avec des coudrons. Nous allons voir tout cela dès notre prochain rendez-vous sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. À bientôt.
Altitude FM.